Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr sur Erdiwa. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Claude Rouchouz. Bonjour.
Bonjour Jean-Claude, à tout le monde.
Bonjour. Jean-Claude Rouchouz, vous êtes ici pour nous annoncer plusieurs faits à venir, à commencer par cette Assemblée Générale qui est censée avoir lieu à l'Ancien Monastère ce week-end, voilà, le samedi 3
octobre. Donc c'est le samedi 3 octobre à 16h. C'est l'Assemblée Générale du RADAR, c'est-à-dire le réseau d'IOA d'accueil des réfugiés. Le RADAR est une association, loi 1901, qui a installé et s'est occupée de 2 grandes familles de réfugiés, des Irakiens yézidis qui étaient victimes de Daesh, qui sont venus par voie légale. Parce que le RADAR, dans ses statuts, n'accueille que des réfugiés venant par voie légale, donc ils sont venus directement d'Irak. La première famille, c'était il y a 3 ans, a été installée à Lukandiwa. Maintenant, ils sont partis à Kray, parce qu'ils ont plus de possibilités d'emploi sur Kray. Et la deuxième famille a été accueillie il y a 1 an à peu près. Et donc, elle est installée à Di. C'est une famille de 11 personnes, il y a 9 enfants. Et tout se passe bien, mais il y a, bien sûr, le RADAR assure le suivi au niveau des démarches administratives et au niveau de l'apprentissage du français. Mais ça se passe très bien, les enfants apprennent vraiment très vite le français, donc tout se passe bien. Donc on pense peut-être accueillir une 3e famille, mais c'est un projet pour 2021.
Toujours de la Syrie ?
Alors, pas forcément de la Syrie, pas forcément, mais ça peut être de la Syrie, ça peut être du Liban, parce qu'il y a des très graves problèmes au Liban. Donc normalement, si on fait comme on l'a fait jusqu'à présent, on passe par les consulats, parce que des réfugiés déposent un dossier dans des consulats, et à ce moment-là, nous, on fait un choix entre les personnes. Et ils viennent par voie légale, ce qui est une sécurité et ce qui leur garantit surtout d'avoir rapidement l'asile politique et d'avoir les aides habituelles qu'ont tous les Français.
Alors le réseau d'IWA d'accueil des réfugiés se constitue de combien de personnes pour aider ces familles ?
Pour l'aide directe à la famille, il y a bien 15 bénévoles, une quinzaine de bénévoles qui s'occupent de la famille. Et le réseau a 100 d'adhérents. On considère que pour qu'un réfugié soit bien suivi, il faut un petit peu 3-5 bénévoles. Parce qu'il y a des bénévoles qui s'occupent par exemple, de l'emmener à Kray ou à Valence pour les déplacements administratifs. D'autres, c'est l'apprentissage du français, qui est quand même long pour les adultes. Il y a aussi les problèmes d'emploi, il y a les problèmes de santé. Alors heureusement, là, ça s'est bien passé, mais il y a des fois des problèmes de santé. Donc il faut bien 3-5 bénévoles pour un réfugié. Pour les enfants, c'est plus facile, d'autant qu'ils sont très bien suivis au collège et au lycée de Die. Il y a des cours supplémentaires, des aides supplémentaires pour le français. Non, ça se passe bien.
Vous avez beaucoup d'adhésion aussi par rapport à cette idée, cette démarche.
Oui, on a pas mal d'adhésion. Parce que, au fond, le Diwa a toujours été quand même une terre d'accueil. Quand on réfléchit au passé, Vous avez des Italiens qui sont installés, qui fuyaient le régime de Mussolini, des Espagnols qui fuyaient le régime de Franco. Quand il y a eu la guerre de 39-45, y a des Hollandais, des Français qui se sont installés au sud. Hein. Voilà, il y a une tradition d'accueil qui remonte à très loin, qui remonte aussi au protestantisme, parce que le Diois a été une région protestante, et comme les protestants ont été victimes de l'intolérance, il y a une sorte de tradition d'accueil. D'ailleurs, c'est pour ça que Die est jumelé avec Louisendorf, en Allemagne du Nord, qui était une terre d'accueil des Huguenots protestants Diois. Hein. Voilà, donc c'est un peu une tradition dioise qui reste.
Donc le Redard se rassemble à 16h à l'ancien monastère. Ça se passera
l'ancien monastère de Sainte-Croix,
oui,
ça à 16h. Et je pense qu'il y aura d'autres associations également.
Effectivement, et puis muni d'un masque. Hein,
oui, voilà. Avec les précautions. Ouais.
Donc, étant une structure qui recevra moins de 30 personnes,
oui.
Vous serez autorisé malgré tout à pouvoir procéder. Qu'en est-il du Redard actuellement ? Est-ce qu'il a atteint sa vitesse de croisière ou vous auriez le souhait de développer un peu plus ?
On s'occupe alors. Toujours bien de cette grande famille, et on pense que dans l'avenir, on va se renseigner pour voir que, si on pourrait accueillir une troisième famille. En fait, le Diois pourrait accueillir beaucoup de réfugiés, hein, parce que vous avez des... Il y a des communes du Diois qui sont favorables à l'accueil des réfugiés, parce qu'elles se dépeuplent. Il y a 10 communes du Diois qui, depuis 5 ans, ont perdu 500 habitants. Bon. Donc, il y a des communes, surtout dans le Haut-Diois, qui sont favorables à l'accueil de réfugiés. Ça assure un développement économique. La difficulté que l'on a, c'est que, bien sûr, des réfugiés qui ne parlent pas le français et qui ont beaucoup d'enfants, et donc... et qui n'ont pas de moyens de déplacement, ils n'ont pas le permis, hein, ou alors ils vont l'avoir plus tard. Donc, pour eux, c'est mieux, bien sûr, d'être installés à Die, ou à Luc, éventuellement, à Châtillon, mais un endroit où il y a une possibilité de déplacement, de faire ses courses facilement. On cherche éventuellement un appartement disponible. Les gens peuvent nous indiquer. C'est pas dans le futur proche, hein. C'est dans 2021, de toute façon. Donc, si les gens ont un appartement qui est inoccupé, que l'on peut restaurer, il n'y a pas de souci, hein.
Cet accueil, par le biais du Redard, donc, de ces familles, quel est le suivi de l'administration auprès de cette démarche ? Est-ce que vous travaillez ensemble, en partenariat ?
Ah oui, mais comme ils sont venus par voie légale, vraiment, ça facilite considérablement. Hein, et ils obtiennent, il y a un petit délai de 3 mois, mais l'asile politique est obtenu vite. Et ensuite, ils entrent dans la logique de devenir français. Hein. Donc, on n'a pas de difficulté parce qu'on accueille des familles qui peuvent être importantes. Hein. Les deux familles, c'était 7 personnes et 9 personnes. 7 enfants et 9 enfants, donc 9 personnes et 11 personnes. Donc, ça peut être une charge importante. Mais le fait de venir par voie légale, vraiment, apporte une sécurité, une facilité pour tout le monde. Pour tout le monde.
Qu'en est-il alors aujourd'hui de sa famille, une étant à Cray pour des raisons professionnelles, hein, dira-t-on.
Oui.
Et puis l'autre a dit, est-ce que la vie reprend pour elle ?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, bien sûr, il y a les aides habituelles, hein, par le Secours populaire, par la Croix-Rouge. Ça fonctionne aussi tout à fait correctement. L'entraide protestante peut aider. Voilà. Donc ça se passe bien. Vraiment, ça se passe bien. Moi, le père de la famille là, qui est installé à Die, je l'ai emmené à la pêche. Il était ravi. Je vais probablement l'emmener aux champignons. Voilà. Et puis plusieurs personnes s'occupent des enfants, les suivent. Il y a des cours de français. Ouais, c'est bien.
Voilà donc pour le Redar. On peut peut-être connaître aussi l'adresse internet de ce site, s'il y en a un.
Il n'y a pas de site, mais il faut me contacter pour le Redar, puis alors, moi je transmets l'information.
D'accord. Donc, et quel est le contact?
C'est Jean-Claude Roussouze, hein, c'est mon téléphone fixe avec répondeur, c'est 04 75 21 02 00.
Et ça sera le même numéro pour Sur ses racines?
Oui,
et
ça sera le même numéro pour les autres associations.
D'accord.
Donc il y a un contact possible, après je transmets aux responsables. Et en général, je suis souvent sur le marché le samedi matin, devant la sous-préfecture. Le samedi matin, devant la sous-préfecture, je suis présent. Et là, je donne les renseignements aussi, sur le Redar et sur les cimetières familiaux et l'association Sources et Racines.
Sources et Racines, habituellement, pour la saison automnale, propose son salon d'automne. Ouais. Qu'en est-il pour cette année ?
Alors, on l'a décalé, parce que normalement, il était prévu à la mi-octobre, et en raison du Covid, trop d'incertitudes, des bénévoles qui n'étaient pas disponibles, il a été décalé d'un mois. Alors, on va voir ce qui se passe, hein. Mais normalement, il doit avoir lieu le vendredi 13 novembre, le samedi 14 novembre et le dimanche 15 novembre. Alors, c'est ce qu'on appelle le salon d'automne. C'est un salon champignon qui existe depuis 2012. Hein. Un salon champignon, un salon botanique, éventuellement géologie et aussi les savoirs nature, les plantes médicinales, les plantes tinctoriales. Voilà, donc la géologie, c'est au fond les savoirs nature, l'ethnologie, de façon assez large. Alors, bien entendu, la base, c'est quand même, c'est le salon d'automne. Donc, la base, c'est quand même la mycologie. Dans les salons précédents, qui se tenaient à la mi-octobre, en général, on pouvait présenter entre 100 et 150 espèces différentes de champignons. Donc, les gens découvraient, avec leur nom, des champignons qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, il y en a aussi des gens qui apportaient des champignons qu'ils avaient récoltés. Et moi, qui suis mycologue, quand je pouvais, je leur donnais le nom. Et de toute façon, je pouvais leur garantir le danger ou le non-danger. Il faut se méfier toujours avec les champignons.
D'ailleurs, il est toujours de bons conseils d'aller chez le pharmacien pour les doutes.
Il est toujours de bons conseils d'aller chez le pharmacien. Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Dans le Diois et dans le Vercors, on a quand même, disons, 5 champignons qui sont potentiellement mortels et à peu près 40 champignons, 40 espèces différentes qui sont indigestes, toxiques, indigestes. Inversement, on a au moins une trentaine de champignons qui sont bons comestibles. Généralement, les Diois connaissent 3-4 espèces de champignons, pas plus. Hein. Mais on peut monter à 30 champignons bons comestibles.
Sera-t-il possible d'une organisation quand même de visites mycologiques en nature ?
Oui, alors on fait des balades nature, hein. Donc il y aura des balades champignons. Et alors la prochaine balade champignons, elle est prévue, hein, c'est le samedi 10 octobre. À 14h, c'est l'après-midi, et c'est le rendez-vous, c'est au parking Chabestan, c'est-à-dire le parking qui est derrière l'école de Chabestan. Hein. Donc, y a 5 euros de participation, et moi j'emmène les gens dans des endroits où je sais qu'il y a des champignons. Alors pas forcément comestibles, hein, on n'est pas sûr, c'est toujours incertain, hein. mais y a déjà des champignons maintenant, hein. Pas partout, c'est assez curieux. Il y a des endroits où il y en a beaucoup. Hein. Je pense que dans le Vercors, il y en a. Romeyer, il y en a beaucoup. Voilà. Et puis d'autres endroits, il y en a peu. Donc, je pense que ça va arriver peu à peu. Il y a des champignons qui sont très tardifs, hein, qu'on peut ramasser presque quand il y a de la neige.
Alors ces champignons, vous leur proposez en principe une exposition au salon d'automne, hein, même si cette année c'est...
Oui, et il y aura même une petite... parce qu'on fait le mercredi 7 octobre, on fait une présentation du jardin de plantes médicinales et tinctoriales au quartier de l'Aube, derrière l'école Sabestan, hein, le quartier de l'Aube avant la Miellerie. Parce qu'on a créé, l'association Serracine a créé un jardin de plantes médicinales et tinctoriales, c'est-à-dire les plantes qui teintent les textiles. Donc le jardin est créé, il y a des panneaux explicatifs, et en même temps... il y aura une petite expo champignons modeste avec éventuellement détermination des champignons. Donc ça c'est le mercredi 7 octobre à 14h au Jardin de l'Aube.
Vous présentez aussi une publication concernant les champignons.
Il y a une publication qui est faite par l'intermédiaire de Sources et Racines, mais dont je suis l'auteur. Et qui s'appelle, c'est une curiosité, hein, ça s'appelle le comportement des champignons. Parce que moi, j'étais avant chercheur en éthologie, mais je m'occupais que des hommes, pas des champignons. Et puis, il y a un an, je me suis dit, les champignons, c'est quand même des êtres vivants. Donc, je vais voir quels sont les grands concepts de l'éthologie animale et humaines qui peuvent éventuellement s'appliquer aux champignons, quels sont les mouvements que font les champignons. Il y en a, bien sûr. Le seul problème des champignons, ils bougent très lentement, comme les arbres. Et autre problème des champignons, en fait, l'univers des champignons est un univers secret. Ils ont des milliers de kilomètres de filaments mycéliens dans le sol, mais ces filaments bougent. Ils bougent, ils vont contacter les racines des arbres. Ils sont très souvent en symbiose avec les arbres. Et en fait, une forêt est une espèce d'être gigantesque qui associe étroitement champignons et arbres. Pratiquement tous les arbres sont mycorhizés par des champignons. Et les champignons leur donnent de l'eau et des sels minéraux, et les arbres leur donnent des sucres, comme ils font la photosynthèse et que les champignons ne peuvent pas faire. Donc c'est vraiment une possibilité, tout simplement, d'étudier le comportement des champignons. J'ai une première édition qui est épuisée, j'avais publié une centaine d'exemplaires, c'est épuisé, parce que je me suis aperçu aussi que ça intéressait les trufficulteurs et les cultivateurs de champignons. Parce qu'ils peuvent se demander comment je peux faire pour améliorer la production, est-ce qu'il y a des trucs négatifs, il y a des ennemis des champignons, mais les champignons, on le sait bien, se défendent, puisque c'est eux qui nous ont donné les antibiotiques qui ont sauvé peut-être 100 ou 200 millions de personnes. Hein. Les champignons, ils ont sauvé plusieurs centaines de millions de personnes grâce aux antibiotiques. Inversement, les champignons, surtout microscopiques, peuvent tuer. En fait, ce n'est pas les gros champignons qui sont dangereux. Les gros champignons, ça fait 4 morts par an en France. Hein. Mais les petits champignons, les mycoses, dans certains cas, peuvent être très dangereuses. Hein. Donc, c'est un monde à connaître, hein, les champignons. Donc voilà, donc, c'est le comportement des champignons. Ça se vend 10 euros et c'est... il faut me contacter au 04 75 21 02 00... Et à ce moment-là, je renseigne, je donne les renseignements. C'est, en même temps, c'est un fascicule qui vous fait réviser le vocabulaire mycologique. Donc ça, c'est toujours intéressant de combiner deux sciences. Combiner l'éthologie, qui est vraiment une science importante, puisque Konrad Lorenz, Nico Tilbergen et Max von Frisch ont eu le prix Nobel de médecine. Hein, c'est une science très importante, sous-estimée, largement, contrairement à l'écologie, on parle toujours de l'écologie, on parle beaucoup moins de l'éthologie, alors que l'éthologie est aussi importante que l'écologie. Donc, et la mycologie, elle est bien sûr importante.
Vous avez donc rédigé un ouvrage sur le comportement des champignons. Qu'est-ce qu'il y a, d'après vous, similaire avec le comportement humain ?
Ah ben, il y a la façon de se défendre, les comportements de défense. Il y a des animaux qui secrètent dans l'air, ce qu'on appelle des phéromones, qui informent d'autres animaux qui sont attaqués, par exemple. Ça existe. Bon, ben, les champignons secrètent aussi dans le sol des substances de défense. Hein, les antibiotiques, c'est des antibactériens secrétés par les champignons. Hein. Donc il y a des choses comme ça. Les hommes sont intéressés par le comportement des champignons, parce que les champignons peuvent être parasites de l'homme. Hein, donc le comportement de parasitisme du champignon est important pour les hommes. Hein. Inversement, ils peuvent nous sauver par les antibiotiques. Hein. Alors par contre, ils ont des comportements qui nous sont complètement... ils se reproduisent par spores, par des sporulations. Un bolet, ça peut envoyer dans l'atmosphère 1 milliard de spores. Donc il y a des spores partout. Hein. Et les spores des champignons, nous, on les respire. Hein. Elles font partie de notre flore intestinale. On est adapté. On est adapté. Donc il y a vraiment plus d'interactions qu'on ne le pense entre l'homme et les champignons.
Je voulais savoir votre avis sur le blob, un champignon qui n'en est pas un d'ailleurs. Qu'est-ce que vous le définiriez ?
C'est un myxomycète, c'est-à-dire c'est pas un champignon, hein, on l'exclut des champignons. C'est des êtres vivants qui sont pelliculaires, hein, c'est des pellicules. Et qui peuvent se déplacer. Ils peuvent se déplacer très lentement. Et on l'a étudié récemment en montrant qu'il était capable de choisir sa façon de se déplacer. Donc d'avoir une espèce d'intelligence, enfin, une souris choisit ses voies. Le blob, semble-t-il, choisit ses voies, ce qui est tout de même assez étonnant. Pour un truc pelliculaire. Mais bon, c'est pas si étonnant que ça. Un microbe comme une paramécie, elle avance, elle se heurte à quelque chose, elle recule, elle se tourne. Bon, à la limite. Mais il semblerait que le blob soit plus intelligent que ce que l'on pensait, en tout cas. On en trouve dans le Diwa.
On en trouve dans le Diwa.
J'avais vu ce documentaire-là sur cet être où on pouvait y disposer du sucre sur une plaque de verre et de voir le blob. En fait, ça reproduisait des villes de la France,
ouais.
Ces points de sucre. Et le blob a reproduit, par sa nécessité, un réseau quasi identique à celui des voies ferrées en France.
Voilà, il a été étudié parce que ça donnait des idées nouvelles pour retracer ou améliorer les voies ferrées et les autoroutes. Donc, c'était assez étonnant. Assez étonnant. Alors, bien sûr, hein, c'est un truc non comestible, insignifiant, en apparence insignifiant. Donc, semble-t-il, il n'est pas du tout. Il a une certaine forme d'intelligence.
Ça, c'est un autre domaine pour vous, justement, ce blob. C'est une chose sur laquelle vous vous êtes penché
C'est très mal connu. Les myxomycètes sont des champignons que l'on ne consomme pas. Ils n'ont pas, à ma connaissance, ils sont pas. On ne les utilise pas pour les antibiotiques, à ma connaissance. Hein. Donc, en fait, c'était des champignons, maintenant, en myxomycète, peu étudiés, très mal connus. S'il y a peut-être 4 ou 5 connaisseurs de myxomycètes en France, c'est le maximum. Hein. Donc c'est quelque chose de nouveau, vraiment, vraiment.
Et du point de vue des champignons, il n'y a pas de comportement tel ?
Non, 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 non. Ce que l'on ignore, c'est quand même le monde souterrain des champignons. Hein, ce que l'on cueille, c'est l'appareil reproducteur. C'est l'appareil sexuel, c'est l'appareil reproducteur qui fabrique les spores. Bon. Mais en souterrain, on a des filaments qu'on appelle le mycélium, les ifs, qui se déplacent, hein, qui poussent, qui évitent des obstacles et qui vont presque tout, la majorité, être en symbiose avec les plantes photosynthétiques. Donc, ce monde souterrain est moins bien connu, bien sûr, hein, il est moins bien connu. Et il est gigantesque, gigantesque. Il y a eu des études aux États-Unis sur un champignon qu'on appelle un armillaire, qui ont montré qu'il pouvait occuper plusieurs hectares, avoir, c'est un champignon qui fait des faisceaux de champignons, hein, des centaines de faisceaux de champignons communiquant par de manière souterraine, et ils ont trouvé que ça pouvait peser plus de 100 tonnes. Donc c'était un gigantesque être pesant plus de 100 tonnes souterrain. Et alors plutôt, les armillaires, des fois, sont parasites et ils attaquent les arbres. Parce qu'il n'y a pas que des champignons symbiotiques utiles aux arbres, c'est la majorité. La majorité, ils sont utiles aux arbres. Et une forêt est en bon état, si les champignons sont en bon état, hein, pour ça que les fongicides sont très dangereux, hein, ils sont plutôt à déconseiller, même au niveau des cultures, hein, sauf si on ne peut vraiment pas s'en passer, mais ils sont très dangereux. Donc dans les forêts, on a un équilibre que l'on voit. Voilà.
Beaucoup de questions encore à venir, mais pense que le public viendra lors de ces balades, par exemple.
Alors pour la comestibilité, bien entendu, hein, quand on dit qu'un champignon est comestible, c'est comestible cuit. C'est systématique. Hein, ça veut dire cuit. Voilà. Et souvent bien cuit. Hein, parce qu'il y a des champignons, comme les morilles, s'ils sont insuffisamment cuits, on peut être malade.
On peut peut-être alerter le public aussi une future AG sur ses racines, ou c'est pas encore défini?
Elle n'est pas encore. On attend que le Covid s'estompe un peu.
Et puis on termine avec la sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme.
Oui.
Et puis d'une publication qui ressort également. Oui. Alors, il va y avoir, pareil, hein, la prochaine AG n'est pas encore définie.
Elle n'est pas encore établie. On va faire des réunions, on va décider. Alors, on attend un peu. Voilà.
Et quelle a été l'évolution de cette association
L'association Sauvegarde des cimetières familiaux, c'est une association laïque départementale. Elle est vraiment départementale. Hein. Donc, le but de l'association, c'est d'inventorier tous les cimetières familiaux du département, de donner des conférences sur l'histoire des cimetières familiaux et de publier l'histoire des cimetières familiaux et aussi, sur demande, d'en entretenir et d'en restaurer quelques-uns. Hein, voilà. Le Diouan et les Baronnies et le rebord ouest du Vercors sont riches en cimetières familiaux. C'est lié à l'histoire du protestantisme, hein, parce que, en fait, les trois quarts de la Drôme sont passés au protestantisme au XVIe siècle. Et Louis XIV a révoqué l'édit de Nantes, qui donnait tous leurs droits aux protestants. L'édit de Nantes d'Henri IV établissait la paix. Louis XIV, en autocrate, a révoqué l'édit de Nantes. Donc, comme les protestants ne pouvaient plus être enterrés dans les cimetières catholiques, en fait, ils étaient enterrés en secret, la nuit, dans leur champ, dans leur propriété, dans leur champ. Et cette intolérance a duré 100 ans, pratiquement jusqu'à l'édit de tolérance de Louis XVI et la Révolution. Donc à partir de là, les protestants ont pu être enterrés dans les cimetières laïcs, communaux, etc., catholiques aussi. Hein. Mais la tradition est restée. Et on peut toujours, d'ailleurs, être enterré dans sa propriété à condition d'avoir un accord hydrogéologique. Donc, le résultat, c'est que ces cimetières sont devenus familiaux. Ils ne sont plus liés au protestantisme. On a des cimetières familiaux qui ont été créés par des familles catholiques. Donc, c'est une tradition. Le problème de ces cimetières familiaux, parce que c'est pour ça qu'on a créé l'association, c'est qu'ils sont privés. Les communes ne s'en occupent pas. Donc, quand les familles n'ont pas d'enfants, ou que les petits-enfants se désintéressent de là où sont enterrés les arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents, ces cimetières familiaux sont en ruine. Donc, on pense que dans la Drôme, il y a plus de 1000 cimetières familiaux. Il y en a entre un quart et un tiers qui sont en état de ruine. Donc c'est pour ça qu'on avait monté l'association, pour essayer d'en sauver quelques-uns. Et surtout, on les inventorie à partir d'une fiche descriptive très précise, indiquant s'il est entretenu ou pas entretenu, est-ce qu'il y a des dalles, des stèles, des trucs intéressants, des personnes célèbres enterrées là, ce qui arrive. Voilà, actuellement, on a des données par fiche descriptive sur près de 600 cimetières familiaux dans le département. Et on a publié un fascicule sur leur histoire.
Au-delà de l'aspect des tombes ou des cimetières, est-ce que vous procédez comment pour les rechercher, ces cimetières ?
Alors pour les chercher, il y a trois méthodes qui s'additionnent. Maintenant, par Internet, par géoportail, les cimetières familiaux, c'est des petits carrés de végétation. Donc, par géoportail, quand vous regardez une commune, vous pouvez focaliser, vous voyez un petit carré, vous pouvez presque reconnaître que c'est un cimetière familial. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, toute simple, les cartes IGN indiquent une petite croix marquée « tombe ». Quand dans une commune, vous avez une seule petite croix marquée « tombe », vous pouvez être presque certain qu'il n'y a pas un cimetière familial, mais deux ou trois ou dix. Hein ? Voilà, la vallée de Quin, elle a 110 cimetières familiaux dans la vallée de Quin. Hein ? À Die, il y en a 8. Poyol, 27. Minglon, près de 30. Saint-Julien-en-Quin, 35. Voilà, il y en a de partout. Mais ils peuvent être très discrets, et certains ont disparu, bien sûr. Mais on peut nous dire, monsieur Untel a été enterré ici, dans ce champ, il n'y a plus rien. On le note quand même. Hein. On le note quand même. Donc c'est une archéologie où on a toujours des données.
Vous tentez parfois de connaître l'histoire des personnes qui sont ces cimetières.
Oui, bien sûr.
Et comment vous référez à des données historiques ?
Oui, il y a des données historiques. Par exemple, il y a plusieurs personnes. À Poyol, vous avez le député Archimbault, dans les années 1935, qui a été vice-président du Parti radical socialiste, député pendant 30 ans, rapporteur du budget de l'armée, un personnage important, bon orateur. Rédacteur de la Revue du Pacifique, voilà, un journaliste, rédacteur de la Revue du Pacifique, donc c'est une personnalité importante. Hein. Vous avez l'écrivain Marcel Legault, qui est enterré dans un cimetière familial sur la commune de Les-Sandiouas. Il y a plusieurs personnalités comme ça, hein.
Donc, vous avez publié un nouvel ouvrage dédié
à
ces cimetières.
Voilà, la deuxième édition qui est complétée, mise à jour, avec plus d'infos au niveau juridique et qui est améliorée par rapport à la première, hein, qui est épuisée. Donc, elle est améliorée. Et donc, on peut toujours se renseigner en me téléphonant. Puis moi, j'habite 39 rue de l'Armellerie, donc je suis d'Iwa. Hein.
Il y a l'aspect aussi du bien sans maître. Est-ce que ça rentre en compte
le
bien sans maître, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un bâtiment ou un terrain qui n'a plus de maître et donc officiellement
ça peut entrer dans cette catégorie, mais en fait c'est jamais fait parce qu'au fond il faut reconnaître que les communes se désintéressent comme c'est privé, elles ont tendance à se désintéresser des cimetières familiaux. Ce qui est une erreur parce que ça peut être une source de développement touristique d'une certaine manière. Hein. C'est un patrimoine, c'est vraiment ça fait partie de ce qu'on appelle le petit patrimoine. Mais un petit patrimoine au nombre de 1000 cimetières familiaux dans le département, ça finit par être important. Hein. Donc, c'est quelque chose... moi, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé de faire des visites guidées de cimetières familiaux dans le cadre des Journées du patrimoine, pas cette année, mais il y a 2 ans, il y a 3 ans, on a fait visiter les 2 cimetières familiaux qui sont faciles à visiter près de l'abbaye de Valcroissant. Voilà.
Pour ce qui concerne l'actualité des 3 associations, donc le Rédar, Source et Racines et la sauvegarde des cimetières familiaux de la Drôme, il n'y a que vos coordonnées pour connaître un peu l'actualité des associations, ou alors il y a des blogs, des sites ou des publications.
Alors pour les cimetières familiaux, il y a un site internet. Si on fait cimetières familiaux Drôme, on tombe sur le site internet des cimetières familiaux. On a ce site internet qui avait été consulté par TF1, et TF1 était venu filmer à la Toussaint les cimetières familiaux de Die, de Valcroissant et de Poyol, et c'était passé aux infos nationales de TF1, c'était vu par 4 millions de personnes. Donc il y a le site internet pour les cimetières familiaux. Pour le Rédar, il n'y a pas de site internet, mais on peut me contacter, et là je transmets, et sur ses racines... C'est pareil. Il y a un site internet sur ses racines.
Jean-Claude Rouchouze, je vous remercie d'être venu nous parler donc de ces associations et je vous souhaite une bonne soirée.
Voilà, bonne soirée à tout le monde.
Au revoir. Thank you.
Yeah.